Europe 1 Sport, le studio des légendes.
Lionel Rousseau.
Le studio des légendes sur Europe 1, Charles Bietri, Charles Villeneuve, Dominique Grimaud, Guy Roux, Jean-Claude Perrin, des légendes, des personnalités qui ont marqué le sport et qui connaissent le sport et le foot et peut-être l'AS Monaco. L'AS Monaco qui va jouer ce soir, on le sait, on suivra d'ailleurs ce match sur l'antenne d'Europe 1 contre l'Olympique Lyonnais, 21h pour le coup d'envoi, mais qui a eu des débuts difficiles, qui s'en sort un peu, mais qui est 17e aujourd'hui, avec seulement 22 points pour une équipe qui a été championne de France, très loin en Ligue des Champions, avec un très gros budget. On se demande pourquoi l'AS Monaco a commis tant d'erreurs, alors qu'on avait le sentiment que c'était quand même le parangon de la réflexion d'un système bien huilé, bien précis, avec des joueurs qui vont et qui viennent, et puis surtout une réussite sportive. Quel est votre point de vue, Charles Villeneuve, pour vous? Pourquoi l'AS Monaco s'est à ce point planté cette saison?
D'abord, le modèle de Monaco tel qu'on l'a vécu, c'est un modèle boursier. C'est un modèle de trading, de trader. On vend au maximum de toute façon ce qu'on a comme qualité pour récupérer, puisqu'il n'y a aucun, si vous voulez... Il n'y a d'abord pas de bassin de population, il ne faut pas l'oublier, à l'inverse de Lyon, on va parler tout à l'heure de Lyon. Il n'y a pas non plus, à l'exception évidemment de, sur le plan fiscal, de quelques réductions fiscales, mais ça n'est pas suffisant. Et puis évidemment, il n'y a pas de stade. À partir du moment où il n'y a pas de population, il n'y a pas de stade non plus. Les recettes, où aller les chercher sur le plan, si vous voulez, du remplissage des stades. Et ce modèle boursier est arrivé, ça peut durer. Vous pouvez de toute façon bénéficier de ce modèle sur une durée très courte, mais pas sur une durée très longue. Et tout le monde a dit à juste raison que c'est les mauvais résultats qui ont fait que le principal actionnaire, qui a 70% du club, a licencié Vadim Vassiliev. Oui, c'est vrai. Il a licencié toute son équipe avec une donnée très importante, l'interférence judiciaire. Il ne faut pas oublier que Riboslav a été mis en examen pour corruption et pour trafic d'influence. Et que Vadim Vassiliev a essayé, il y a un ressort qui s'est cassé dans ses rapports entre Riboslav et le prince Albert, le patron de la maison de Monaco. Et ce ressort, il a voulu le réparer en introduisant dans l'organigramme le fils de Stéphanie, Louis Ducruet, qui est aussi le neveu du prince Albert. Et ça, compte tenu du fait que le directeur général adjoint est Bruno Scropetta, qui a été mon collaborateur non seulement à la direction générale des sports, mais aussi au PSG, bien évidemment, j'ai beaucoup dialogué avec lui. Ça a beaucoup compté dans la semaine où il a hésité, Riboslav, et il a fini par évincer toute l'équipe de Vassiliev. Cette affaire s'est ajoutée évidemment au mauvais résultat, au fait qu'on a fait venir... Le va-et-vient des entraîneurs, etc. Et puis aussi, évidemment, il ne faut pas oublier que les 537 millions d'euros qu'ont rapporté tous les transferts, le Riboslav ne peut les toucher avant 7 ans. Il ne faut jamais oublier ça, et notamment les 200 millions d'euros de bénéfices de ces transferts.
Il y a un échéancier.
Cet impact. Il y a un échéancier.
Il y a une convention signée avec la principauté.
Plus cette affaire judiciaire, plus cette interférence, si vous voulez, dans l'organigramme, a fait qu'il a pris cette décision-là. Donc c'est un ensemble. Il ne faut pas le réduire simplement, si vous voulez, à l'échec sportif. Justement, à l'échec sportif.
Uniquement, purement. Voilà. Même si Charles Bietri, on peut quand même s'interroger. On sépare d'un entraîneur qui a réussi pendant quelques saisons déjà à obtenir un titre de champion de France devant le PSG, mais parfois à faire du bricolage parce qu'il a vu parfois débarquer des joueurs dont il ne connaissait même pas l'identité un matin à l'entraînement. Je parle de Jardim. On s'en sépare, on fait venir Thierry Henry. Ils se sont plantés avec Thierry Henry, peut-être trop jeune, c'était pas le bon moment, qui sait. Et puis Jardim qui revient avec un salaire plus important. En termes de gestion, c'est un peu n'importe quoi quand même.
Ah, mais de toute façon, Monaco, je dirais, s'il y a un mot qui va bien avec Monaco, mis à part le maillot et la couleur des maillots qui en font les plus beaux de France et peut-être d'Europe, et bon, il y en a deux, trois en Amérique du Sud, ils sont peut-être plus jolis. Autrement, le mot qui, moi, me vient immédiatement à l'esprit, c'est opaque. La gestion de ce club est opaque. Elle a toujours été opaque. Pas seulement, Charles vient de très bien l'expliquer, parce qu'il y a des dirigeants qui sont mis en examen, qui ont eu pas mal de problèmes déjà, mais parce que la façon même dont ils ont fait leur recrutement, enfin si on peut appeler ça un recrutement, pour moi il y a eu des choses hallucinantes. On va le voir ce soir. Ce soir, par exemple, je pense qu'il va y avoir, je ne connais pas encore la compo de l'équipe, zéro joueur qui ont joué le match aller. Zéro joueur qui vont jouer le match aller contre Lyon et 11 joueurs nouveaux qui vont débuter. Bon, déjà, c'est quelque chose d'invraisemblable. Et même qu'ils aient le droit, que les règlements leur permettent d'engager 8 nouveaux joueurs au mercato d'hiver, est quelque chose d'assez exceptionnel. Après, Thierry Henry, il est arrivé avec le groupe qu'il y avait. C'est-à-dire ce groupe qui a été fait de jeunes achetés à prix d'or. À prix d'or. Il y a des jeunes qui ont été achetés 20 millions d'euros à 18 ans. 20 millions d'euros. Et à 18 ans, quand on prend un jeune, c'est pas sûr qu'il va devenir Mbappé à 19 ans. C'est pas sûr du tout. La preuve, c'est qu'ils en ont à peu près la moitié qui ne viennent rien du tout pour le moment. Qui deviendront peut-être. Et donc, ce recrutement, Thierry Henry, il a payé ça. Thierry Henry, il est bon entraîneur, il est mauvais entraîneur. J'en ai aucune idée. C'est un jeune entraîneur, on ne va pas dire qu'il ne connaît pas le foot. Il est arrivé avec un groupe avec lequel on ne pouvait rien faire. Ni lui, ni Jardim, qui a échoué.
Plus beaucoup de blessés aussi quand il est arrivé.
Les blessés, ça fait partie aussi du boulot des entraîneurs.
Non, mais c'est vrai, c'était un groupe exsangue.
Ah, totalement. Mais on aurait pu prendre Tourelle, l'idole du moment. Ouais. Moi, j'aurais voulu le voir avec l'effectif de Monaco du début de saison. Il aurait fait comme tout le monde. Et il aurait été viré comme tout le monde aussi, d'ailleurs. Monaco, cette année, c'est un ovni dans le football, tellement la gestion a été bizarre, étrange. Mais pour moi, opaque, ils ne peuvent pas être bêtes, ces gens-là. Ils ne peuvent pas être stupides, tous. Ils savaient qu'en prenant 15 nouveaux jeunes et en enlevant 12, ils allaient avoir un problème sportif. Donc, ils avaient d'autres idées en tête qui ont été évoquées par Charles.
Ce n'est pas un système viable, Giroud, pour vous ? Ça ne sent pas le vrai football, ce système-là ?
C'est une caricature extraordinaire. Le seul défaut de Thierry Henry qu'on peut discerner aujourd'hui et lui pardonner, c'est qu'il n'a pas fait l'analyse de l'effectif qu'il allait prendre. Autrement, il ne serait pas venu. Il n'avait pas besoin de ça pour manger, donc il ne serait pas venu. Il est venu avec la foi et le cœur qu'il avait de Monaco, où il a été formé et où il a joué, et puis c'est tout. Alors ça, c'est sa seule faute. Après, tout lui a été imposé. J'ai lu dans France Football, je crois, une interview de M. Vadizieff, un papier sur lui, où on disait qu'il avait un pourcentage sur toutes les plus-values. Alors on comprend qu'il ait cherché 20 plus-values cette année.
Oui, Charles Villeneuve, là, dans un...
Non, mais il n'est pas tout seul, Vassiliev. Le vrai patron, c'est Ribolovlev. C'est le président, l'actionnaire principal. C'est son argent.
Alors, mais c'est il délègue quand même,
oui,
Charles.
Oui, mais il délègue, mais vous ne croyez pas qu'il a vendu Bernardo Silva, tous les autres, Bakayoko et j'en passe. Bon, je ne vais pas tous les citer, Fabinho, etc. Mbappé. Sans l'autorisation de Ribolovlev.
Mbappé.
Bon, Mbappé, bien sûr. Et puis, pour le dernier, Thomas Lemar. Bien évidemment, c'est d'abord Ribolovlev qui dirige cette opération. Bon, il fallait qu'il rattrape en quelque sorte, qu'il compense son investissement. Mais c'est la seule manière de compenser son investissement, puisque d'accord, il y a une fiscalité avantageuse, mais où est la diversification des recettes ? Où est le bassin de population, etc. Donc on sait très bien que ce club, c'est un ovni et c'est une curiosité. Et c'est vrai que, et Charles Bietri l'a trouvé le mot, c'est opaque du début jusqu'à la fin. Bon, et on se demande d'ailleurs quel est vraiment le mobile de fond de Ribolovlev pour mettre autant d'argent sur un club dont on sait qu'il est très difficile de récupérer ses investissements. C'est la question que je me pose. Alors, Vassiliev, il a payé.
Allez plus loin, parce que j'imagine qu'à votre question, il y a peut-être une réponse ou une suggestion ou une sous-réponse.
Moi, j'attends, si vous voulez, la fin des investigations du tandem des juges d'instruction. Parce qu'ils ont cette idée-là.
On entend ça souvent en ce moment sur les antennes. Hein.
Dominique Grimaud, votre sentiment sur la situation de Monaco, qui a toujours été une situation particulière. C'est une équipe aussi qui a...
Oui, sauf qu'il faut avoir un très grand respect pour la formation de l'AS Monaco, que ça dure depuis 60 ans, depuis les années 60.
C'est juste.
Souvenons-nous. Ce que Monaco a offert au football français, en internationaux, à l'appel de Yvon Douiz Kossou jusqu'au dernier Kylian Mbappé. Donc n'oublions pas ça. Donc ovni pour l'AS Monaco aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pas de projet sportif. C'est une équipe, encore, qui il y a 2 ans, nous faisait rêver. était à deux doigts, non pas de gagner la Ligue des Champions, mais qui avait tout à fait.
Qui était en demi-finale.
Mais qui était en demi-finale et qui nous faisait vraiment rêver. Créer un groupe, créé, animé par Jardim, quelque chose de très crédible. Et après, ce groupe, cette équipe se délite. Et effectivement, on se demande pourquoi. Pour quel intérêt, mais, si ce n'est un intérêt personnel.
Oui, non, mais Dominique, tu savais très bien déjà au niveau de la demi-finale de l'AS Monaco qu'une partie de ces joueurs allait s'éparpiller. Il y avait déjà des contacts, des négociations.
Mais
il suffisait d'en parler avec les principaux agents de la place.
Mais pourquoi ? Non, pas embrader, parce qu'ils les ont vendus très bien et très cher. Mais pourquoi se séparer de quasiment plus de la moitié de l'équipe qui était demi-finaliste de la Ligue des Champions? C'est ça, c'est une question, Charles.
Bah, la question, c'est qu'en fait, la performance sportive
était insuffisante.
Un peu d'importance.
C'est
l'avance, voilà. C'est le
banc. Mais la performance sportive a valorisé justement ces joueurs à un tel taux de transfert qu'il en a profité. Parce qu'il fallait récupérer son investissement aussi.
Alors, moi, ce que j'ai lu aussi, pas plus tard que ce matin, c'est qu'effectivement, il y a un bénéfice d'à peu près 200 millions.
D'euros.
Et il y a 50 millions de ces 200 millions qui ont été ou qui vont être investis ou réinvestis dans la construction d'un centre de formation qui verra le jour en 2020. Donc n'oublions pas cela non plus.
Oui,
ça
oui.
compte aussi.
Il pense au futur. Jean-Claude Perrin, votre
sentiment. Non, mais ça fait partie des accords avec le Palais. Hein. Voilà. Le réinvestissement d'une partie de l'argent bénéficiaire.
Avec le fameux calendrier des 7 ans aussi pour les dividendes concernant Ribolovlev. Votre sentiment, philosophiquement, ça vous dérange qu'on parle autant d'argent et qu'il y ait des stratégies financières autour des performances sportives d'un club de football?
On est très très surpris, même pour les non-spécialistes qui ne connaissent pas comme Charles les méandres de la finance. On est surpris que des choses comme ça aient pu se produire. De voir une équipe complètement renouvelée ce soir, c'est à la limite du moral. Et je dirais même, pour moi, entraîneur, c'est immoral. Maintenant, ce qui s'est passé dans un club qui était stable, avec un très bon centre de formation, de très très bons éducateurs, c'est qu'ils ont découvert que le sport et l'argent pouvait être un vecteur, comme on le voyait dans le showbiz, de représentation et de plus-value. Mmh. Et ils ont pensé qu'en vendant et en prenant d'autres, on allait pouvoir avoir les mêmes résultats. Mais c'est là où le sport est merveilleux, c'est qu'il n'appartient pas au monde de la finance. Il y a l'humain. Il y a un championnat, il y a des adversaires. Alors évidemment, pour ces grands financiers qui ont eu l'habitude à travers le monde de faire des affaires merveilleuses, eh bien là, ils sont tombés sur un os. C'était pas Hollywood, même si on était à Monaco. Et là, ils ont entraîné ce pauvre Henri dans un traquenard.
Oh, ce pauvre.
Ouais.
Ce pauvre.
Non, mais moi je parle pas d'argent, tu comprends, Dominique.
Non, il se place sur le plan humain.
Non, mais tu te rends compte, ce gars-là, ce qu'ils lui ont fait vivre. Oui. Alors évidemment, tous les grands censeurs vont dire oui, à ce prix-là, moi j'aurais aimé. Mais non, voilà un homme qui est marqué. Il n'a pas su où il mettait les pieds, il a été imprudent. Et on lui met tout sur le nez.
Giroud, avec la gestion de Monaco, on est quand même aux antipodes de la gestion d'Auxerre à votre grande époque. On est d'accord.
Ah, c'est sûr que ce n'est pas le même métier.
Ouais. Alors la différence est si grande que ça?
Non, énorme. Complètement énorme.
D'accord.
Complètement énorme. C'est la gestion d'Andorre et la gestion des États-Unis.
Mais qui sont les États-Unis et qui est Andorre?
C'était mon... Non, ce que je voulais dire, c'est que quand nous étions au sommet aussi, en lutte avec Monaco pour les premières places, ils étaient un peu comme nous. Par exemple, en Gambardella, on a perdu 4 à 3, je crois, à une attaque Henri Trezeguet. En Gambardella, contre nous, là, ils faisaient du football. Et puis leur équipe, quand c'était Hidalgo et compagnie, c'est pareil. C'était une vraie équipe, un vrai club. Il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas de supporters. Ils en avaient 3 000. mais 3000 fidèles qui aimaient le club, c'est pas rien. Aujourd'hui, les pauvres, enfin eux, ils doivent continuer d'être pauvres au milieu des riches.
Enfin, 3000, c'est pas beaucoup, Charles Bietri, quand même, pour un grand club. Quand on veut être un grand club européen, 3000 supporters.
Non, mais dans ce stade-là, qui date de 1980, je crois, si je me souviens bien, c'est pas si mal. Et puis les supporters, ils viennent aussi quand l'équipe donne envie de venir. Alors, cette équipe de Monaco, c'est assez étrange parce qu'on l'a tous aimé. Ouais, au fin fond de ma Bretagne, on était supporters de Monaco. On aimait bien. Et à Monaco, ils n'étaient pas supporters de Monaco. Comme s'ils les voyaient autrement. Comme s'ils les voyaient un autre visage. Comme si la principauté, avec l'argent qui y coule, je présume, les repoussait un petit peu. Parce que le supporter de foot, il est pas riche. Ça, hein, c'est quelqu'un qui se bat pour travailler et pour gagner sa vie. Alors c'est vrai qu'à Monaco, il y en a sûrement un petit peu moins qu'à Lille ou à Valenciennes.
Les supporters de Monaco vivent peut-être pas tous à Monaco d'ailleurs. Ils vivent peut-être dans la périphérie autour, à Nice ou dans la région. Le studio des légendes revient dans quelques instants sur Europe 1. Avec Charles Bietri, Charles Villeneuve, Dominique Grimaud, Guy Roux, Jean-Claude Perrin, à tout de suite.